Bonjour, je vous propose de prendre l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Et nous y voyons une histoire assez particulière, une pêche miraculeuse pour un seul poisson. Et pourtant, elle est bien miraculeuse cette pêche-là, mais il n'y a qu'un poisson à prendre. Pierre a appris la pêche au gros et il va apprendre la pêche à la ligne. Et les deux pêches sont tout autant miraculeuses l'une que l'autre. Au verset 24 du chapitre 17, nous lisons ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, Matthieu 17, 24. Ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit : Simon, qu'en penses-tu ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou des tributs ? De leurs fils ou des étrangers ? Il lui répondit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. Mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. C'est un passage que j'aime bien. Personnellement, j'aime bien cette histoire. Parce qu'elle nous montre à quel point le Seigneur, malgré la condition qui était la sienne, avait, de par son statut, certaines possibilités, certains pouvoirs, et il a su s'en servir en toute liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit que des gens qui ont une certaine position vont abuser de leur pouvoir. Par exemple, dans certains dirigeants de pays sont passés d'autorité à autoritarisme. C'est pas pareil. Ils avaient une position d'autorité, mais comme on dit, l'autorité, ça se... Personne trouve. L'autorité, ça se gagne. Ça s'impose pas. Quand on commence à imposer son autorité, quelque part, il y a de l'autoritarisme. Et il y a des tas de circonstances, que ce soit dans le domaine des présidents de pays, qui vont abuser de leur pouvoir pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et imposer ce qu'ils veulent. À tous les niveaux, on observe ce comportement. C'est ainsi qu'on retrouve des chefs en entreprise qui vont imposer un peu plus que d'autres ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas toujours évident à vivre. Quand quelqu'un commence à dépasser son périmètre, quand quelqu'un commence à aller au-delà de ce qu'il est censé être, de ce qu'il est censé faire, la personne a un pouvoir, a un certain pouvoir, et elle va en abuser. Elle va aller au-delà du pouvoir qu'elle a pour essayer de faire des choses pour elle, pour imposer ce qu'elle veut, pour toujours aller dans la direction de ce qu'elle a choisi, elle a défini. Et non seulement elle a une situation, mais elle va déborder. Ici, on voit quelque chose d'inverse, complètement inverse. Ici, on a une affaire où, si on revient au texte, tout tourne autour de cette question. Votre maître ne paie pas-t-il les deux drachmes ? Et on va voir que Jésus va utiliser une parabole pour expliquer à Pierre qu'il n'est pas obligé de payer. Il n'est pas obligé de payer parce que son statut fait qu'il n'est pas obligé. Il a la possibilité de ne pas payer parce qu'il est fils. Les deux drachmes, c'est un impôt qui était donné pour la maison de Dieu. C'était une petite somme, une très petite somme, qui était prélevée chez tous les Israélites, et notamment les étrangers. Et cette petite somme allait dans la salle du trésor du temple. Et c'était une somme qui était prélevée pour le temple. Et ce n'était pas du tout pour le pays, le fonctionnement du pays, c'était pour le temple. Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu ? Donc oui, la maison de Dieu, c'était sa maison. Il est chez lui quand il est au temple. Donc cette somme-là, il n'était pas obligé de la payer. Par contre, tous les autres, oui. Tous les autres, oui. Alors on imagine Pierre. C'est intéressant de regarder ce que vit Pierre dans cette affaire. Il se retrouve un peu pris à partie. D'ailleurs, les personnes qui vont le voir n'ont même pas le courage d'aller voir Jésus directement. Ils vont voir Pierre. Bon, on lui pose la question. Pierre se retrouve peut-être décontenancé par la question qu'il entend. Il ne sait pas trop quoi répondre. Et il va quand même donner la réponse qui sera ce que Jésus va faire. Donc il se dit que oui, il allait la payer. Mais il n'avait pas réfléchi plus que ça à ce que ça signifiait de payer ces 2 drachmes. C'était rentré dans la tradition, dans la religion, entre guillemets. On fait des choses des fois sans réfléchir. Et l'apôtre Pierre, ici, il va répondre ce qu'il pense être normal de répondre, ce qu'il pense que le Seigneur va faire, mais il n'a pas réfléchi derrière à tout ce que ça signifiait. Mais il va donner sa réponse. Et là, Pierre, il va aller quand même, il faut le reconnaître, il va aller de surprise en surprise quand même. Ils vont rentrer, on pense que d'ailleurs la maison dans laquelle il rentre, c'est sa maison. C'est sa maison. Et il rentre dans la maison, et voilà que Jésus va révéler à Pierre la conversation qu'il a eue. Parce que Jésus n'a pas entendu de ses propres oreilles cette petite question en aparté à Pierre. C'est écrit. Quand on lit le verset 25, « Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole. » D'autres versions nous parlent qu'il connaissait dans son cœur ce qu'il y s'était passé. Jésus, quelque part, en prenant Pierre ainsi à partie, va déjà montrer à Pierre que même sans avoir assisté à la conversation, il savait. Il savait. Et quelque part, Pierre, bon, peut-être que venant du Seigneur, il était moins surpris parce qu'il en avait peut-être vu d'autres, j'en sais rien. Mais c'est toujours surprenant quand même quand quelqu'un comme ça vient nous révéler quelque chose qu'on s'est dit à côté. Pierre va se retrouver devant une parole de connaissance de Dieu, de Jésus, et il va tenter de lui expliquer justement la raison de cet impôt et ensuite ce qu'est son choix. Parce que si je devais donner un titre à cette prédication, je dirais que c'est le choix de payer. Jésus est libre, il est complètement libre de faire ce qu'il veut, de payer ou de ne pas payer, parce qu'il est le Fils. Et pourtant, à travers ce qu'il explique à Pierre, cette petite parabole qu'il va donner à Pierre, il va expliquer que même s'il n'est pas obligé, il choisit. Il choisit de payer. Pourquoi il choisit de payer ? Eh bien, il le dit lui-même. Mais pour que nous ne les scandalisions pas. Si Jésus n'avait pas payé, il aurait été un sujet de scandale, dans le sens où les autres n'étaient pas en mesure de savoir qu'il était le Fils. Son statut était très méconnu de tous. Il avait beau le dire, mais personne ne le croyait, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Il se nommait lui-même le Fils de l'homme en faisant référence à un texte de Daniel où il explique, je crois que c'est au chapitre 9, 10 ou 11, je ne sais plus, où il est question du Fils de l'homme. Et là, quand il est question du Fils de l'homme de Daniel, c'est celui qui revient avec puissance. Et quand Jésus se nomme ainsi, c'est quand même pour dire qu'il est celui qui accomplit la prophétie de Daniel, celui qui est le Tout-Puissant. Et malgré le fait qu'il se nomme ainsi publiquement Fils de l'homme, personne ne le croit. Personne n'arrive à déduire qu'il est le Fils, qu'il est celui qui n'a pas à payer. Autrement dit, s'il ne paye pas, il va être un mauvais exemple. il va être une occasion de chute pour d'autres. Parce que d'autres pourraient se dire, n'ayant pas compris la réalité des choses, pourraient se dire, lui, il ne paye pas, moi, je ne vais pas payer non plus. Et ainsi que peuvent démarrer de mauvaises histoires parce qu'on a pris des libertés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul enseigne, ou par ma liberté, parce que je l'ai vraiment, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Mais devant la conscience de l'un qui est autour de moi, qui est un peu plus faible que la mienne, eh bien je vais le faire chuter par ma liberté. Et le Seigneur a ce même raisonnement, il ne veut pas choquer, il ne veut pas scandaliser, et le Seigneur choisit de payer. C'est son choix, parce que il réfléchit aux autres. Une liberté qui est sa liberté, il a le choix, l'un ou l'autre des choix ne lui était pas interdit, et pourtant, par égard pour les autres, il va choisir le choix qui va faire que les autres ne seront pas scandalisés. Ici, c'est très très révélateur d'un autre choix qu'il a fait. Le Seigneur, il n'était pas obligé de venir jusqu'à nous. Il n'était pas obligé de se faire homme et de marcher parmi nous et d'aller jusqu'à la croix. Il n'était pas obligé. C'est exactement la même chose. Ici, ce texte nous parle simplement d'un choix qu'il a fait parce qu'il aimait finalement les autres. Il aimait ceux qui étaient autour de lui. Il aimait les hommes. Et l'amour qu'il avait pour les hommes l'a amené tout simplement à avoir des choix en vue de gagner les hommes. Et ici, le Seigneur, depuis le ciel, il va faire le choix de se faire homme. Il va faire le choix de subir l'ignominie des uns des autres, de subir le mépris des uns des autres. Il va faire le choix de souffrir, d'aller jusqu'à la croix. Et il sera la rançon. Il sera la rançon qui sera donnée aux hommes afin qu'ils puissent être sauvés. Avez-vous regardé la somme que Pierre va pêcher? Il pêche un stater. Autrement dit, il y a 4 drachmes. Ce n'est pas pour rien qu'ensuite Jésus va lui dire « Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Le salut que Dieu nous donne, il a été payé. Non seulement le Seigneur a donné l'exemple en marchant parmi nous sans commettre de péché, et pourtant il a subi la condamnation, et le prix qu'il a payé, il y a dedans la valeur de notre propre rançon à nous. Ainsi que Pierre va pêcher ce stater qui va payer la taxe pour lui et pour le Seigneur, alors que lui n'était même pas obligé de la payer. De la même manière, quand il meurt à la croix, qu'il passe à travers tout ce qu'il passe pour que nous puissions être sauvés, il paye ce que nous ne pouvions pas payer. L'apôtre Pierre, dans cette affaire, il ne va rien débourser. Il ne va rien débourser, si quand même, quelques efforts. Parce que ce que lui dit le Seigneur est tout simple. Prends ta canne à pêche, tu vas à la mer, tu vas pêcher, et le premier poisson que tu attrapes, il aura dans sa bouche un stater, une belle pièce d'or. Si on imagine quelques secondes, le nombre de poissons qu'il y a... Moi, j'imagine Pierre qui revient de sa pêche miraculeuse, les barques qui s'enfonçaient, et là, il est envoyé pour pêcher un poisson. Et parmi tous les poissons qu'il y a dans la mer, celui qu'il va pêcher aurait une pièce. C'est invraisemblable, cette affaire. C'est invraisemblable. Et l'apôtre Pierre, de la même manière qu'il a dit à Jésus, « Sur ta parole, je lâcherai les filets », eh bien, sur sa parole encore, il prend sa canne à pêche et il va aller pêcher. Et le poisson qu'il va pêcher va contenir ce stater, qui va contenir la somme exacte, à ce que sa taxe à lui soit payée ainsi que celle du Seigneur, qu'il offre gracieusement. Le Seigneur a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il n'était pas obligé. Il en a fait le choix. Et parce qu'il a donné sa vie, moi aussi, la rançon que je devais payer a été payée par lui. La providence de Dieu qui fait que par la seule vie du Seigneur qui a été donnée pour nous sur la croix du calvaire est suffisante. La justice de Dieu a été faite suite à cette pêche miraculeuse. La justice par rapport à cette taxe va-t-elle être accomplie ? Mais oui, aux yeux des hommes, justice sera faite aussi, parce que Pierre va payer pour lui et il va payer pour le maître. Il va pouvoir ainsi fermer la bouche à ceux qui posaient la question. Le Seigneur a tout fait pour nous. Le message de cet après-midi, il est simple. Il est tout simple. Parce que cette histoire nous rappelle simplement le fait que le Seigneur a choisi de payer parce qu'il nous aime. Il a choisi. Il n'était pas obligé. Et il l'a fait parce qu'il nous aimait. Derrière la liberté qu'il avait, il s'est imposé la limite de faire des choix pour le bonheur de ceux qui seraient à son contact, de ceux même qui refuseraient. Il a réfléchi au bonheur des autres. Et là encore, on connaît tous cette parole parce que derrière, il y a ce message, on va dire, d'évangélisation qui nous dit que le Seigneur a payé. Il en a fait le choix par amour pour nous. Et il y a un autre message dans cette histoire, qui est la position du chrétien aussi, qui, s'il suit les traces du maître, s'il marche dans les traces du maître, Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si on paraphrase autrement, on pourrait dire ceci, que Jésus a dit, je suis le véritable chemin qui donne la vie. Je dis autrement, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est le véritable chemin. Et celui qui y marche aura la vie. Autrement dit, ici, on y trouve encore un exemple qui nous montre qu'un vrai chrétien doit être capable de faire certains choix. Pas pour son plaisir et sa satisfaction personnelle, quand bien même il serait dans son droit. Des fois, il y a des situations compliquées où une personne nous a fait du tort et on se retrouve à se dire « mais c'est pas juste, c'est la personne qui m'a fait du tort, moi j'ai rien à me reprocher, je suis dans mon bon droit ». L'exemple du Seigneur nous indique une chose, c'est que tu peux quand même faire le choix d'aller vers la personne. Et quand bien même tu ne lui as rien fait, tu peux lui tendre la main pour résoudre la situation. Tu peux faire un premier pas. Et c'est ici, quelque part, encore une fois, ce choix qui peut-être parfois nous coûte dans certaines situations, mais qui montre que on ne va pas forcément user de notre liberté, de notre bon droit, au risque parfois de choquer. Le Seigneur, il est libre, complètement libre, mais il cherche à gagner le plus grand nombre. Et nous qui sommes chrétiens, à travers cette simple histoire, on voit la même chose aussi. Cette liberté qui est la nôtre, on ne doit pas en faire un prétexte pour faire ce que nous voulons, mais quand nous sommes en compagnie de personnes qui pourraient être troublées par notre comportement, qui pourrait s'interroger sur certaines manières de faire. Faisons attention à ceux qui sont autour de nous. Et c'est là qu'intervient la liberté que nous avons. Nous devons prendre la liberté, quelque part, de faire en sorte de ne pas scandaliser ceux qui ont une conscience plus faible. Et le Seigneur, ici, avec cette simple histoire, il nous a tracé un exemple, il nous a montré un exemple. L'apôtre Pierre, eh bien, il va aller pêcher, il va aussi faire quelques efforts quand même, parce qu'il va passer au moins le temps d'aller pêcher le poisson. Et par rapport à tout ça, il y a une troisième petite partie que j'aimerais soulever. L'apôtre Pierre a été fait pêcheur d'hommes. Et il y a tout le parallèle avec la pêche miraculeuse, la pêche au gros. Mais là, c'est pareil. Hein. À travers l'expérience de Pierre, à travers cette image, on voit aussi que quelque part, eh bien, il y a des situations où on va être amené à parler et il y aura beaucoup de personnes qui vont être amenées à comprendre l'évangile. Et des fois, le Seigneur va nous amener à aller juste pour une. Alors des fois, c'est une visite, des fois, c'est un simple témoignage à une personne. Mais des fois, c'est très, très important. On a un exemple parfait, si vous voulez réfléchir sur cette prédication, on a un exemple parfait dans Acte 8. On va voir Philippe qui, au début, va faire un grand séminaire d'évangélisation. Beaucoup de personnes vont venir au Seigneur. Et peu de temps après, il va être dépêché, sans faire de jeu de mots, pour une personne, qui est un Éthiopien. Mais c'est quelqu'un qui, aux yeux de Dieu, avait de la valeur. Il avait tout autant de valeur que le village qui a été gagné. Et Dieu a jugé utile que Pierre aille vers cet Éthiopien. Pourquoi ? Parce que derrière, cet Éthiopien qui va se convertir, eh bien, il sera la source de beaucoup d'autres conversions derrière. Et il était nécessaire que l'apôtre Pierre soit dépêché, que Philippe soit dépêché juste pour cette personne. Pierre, de la même manière, il va devoir aussi aller pêcher à la ligne quand il va aller chez Corneille. Et là encore, ce sont des personnes pour qui il y avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et des personnes pour lesquelles le Seigneur a donné sa vie. Est-ce que des fois dans notre cœur, nous qui sommes chrétiens, on réfléchit en regardant ceux qui nous entourent, même ceux qui nous insultent, ceux qui nous sont désagréables, ceux qui nous parlent mal, que ce sont aussi des personnes pour lesquelles Dieu a donné sa vie? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense? Le Seigneur a donné sa vie pour tous les hommes. Et la rançon a été payée pour tous les hommes. Évidemment, évidemment, c'est lié au choix de chacun. Lui, il a choisi de payer, et nous, nous avons à choisir d'accepter ou de refuser. De chaque côté, il y a un choix. De chaque côté, il y a une liberté. Et dans tous ces choix qui sont possibles, le Seigneur a fait le choix pour nous de prendre une décision pour notre bien. Et nous, maintenant, si on fait le choix d'accepter, alors on va recevoir vraiment ce que le Seigneur veut nous donner. On sera au bénéfice de ce bon choix. À l'inverse, si on refuse, eh bien, on va s'endetter parce que ce qui est sur notre tête n'aura pas été payé. L'apôtre Pierre, ici, va pêcher un poisson qui contient un statère dans sa bouche. Et la dernière pensée que je voulais donner, si nous, on était un poisson, il y a toujours cette notion, on serait pêcheur d'hommes. Il y a de la valeur aux yeux de Dieu, et pour certains qui vont donner leur cœur, il y avait de la valeur, une valeur intrinsèque. Pour nous qui sommes chrétiens, si on se considère toujours comme des poissons, au moment où l'hameçon sera dans notre bouche, qu'est-ce que le Seigneur va y trouver ? On pourrait lire ensemble un verset, Proverbes chapitre 10. C'est plein de petites pensées sur ce texte que je donne. Proverbes chapitre 10 et verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Il y a quoi dans notre bouche ? Il y a quoi dans notre bouche ? Si on s'imagine être le petit poisson, ou le gros, ça dépend. Si on s'imagine être le poisson qui, à un moment donné dans sa vie, va se retrouver, paf, à l'hameçon. Il est monté à la surface. Il est pris. Il est retiré. Quand le Seigneur viendra nous reprendre notre âme, qu'est-ce qu'il va y trouver ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans notre bouche ? Est-ce qu'il y a un statère ? Ou est-ce qu'il n'y a rien ? Est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que nous sommes ? Ou est-ce qu'il n'y a rien ? Quels sont ceux qui ont de la valeur ? Et quels sont ceux qui n'ont pas de valeur? C'est important de le savoir. Celui qui a de la valeur, c'est celui en qui le Saint-Esprit réside. Le Saint-Esprit qui réside dans le cœur du chrétien est l'image de ce statère qui est dans la bouche du poisson. C'est un trésor que nous avons, ce trésor dans des vases de terre, écrit Paul. C'est la même chose. Un poisson qui contient une pièce, un trésor dans un vase de terre. On retrouve souvent des images semblables où, d'un point de vue extérieur, ça ne paye pas de mine, comme on dit, mais quand on regarde à l'intérieur, oh, il y a un trésor. Quand ma vie me sera redemandée, quand l'hameçon va venir, il y aura quoi dans ma bouche? Il y aura quoi dans ma bouche? Des paroles qui sont tout le temps à se plaindre, à tout le temps s'inquiéter, à tout le temps chercher les disputes, ou des paroles pleines de grâce et de vérité, comme les avait le Seigneur lui-même? Est-ce que dans notre bouche il y a la vie? Est-ce que dans notre vie, parce que c'est le symbole aussi de notre vie, dans notre vie il y a quoi? Il y a la présence de l'Esprit de Dieu qui nous amène à avoir des fruits paisibles de justice, ou est-ce qu'il y a dedans de l'hypocrisie ou d'autres choses qui font que finalement nous ne sommes qu'un poisson sans valeur? Lequel des deux sommes-nous? La question est posée. Le Seigneur Jésus a choisi de payer. Il a choisi de payer pour nous, pour que nous puissions être aussi ces poissons-là, avec ce trésor à l'intérieur. Il a choisi de payer pour que nous ne soyons pas endettés. Il a donné sa vie pour cela, et grâce à son sacrifice à la croix du calvaire, nous pouvons dire que le Seigneur a payé pour nous. Notre dette a été payée. Et non seulement cela, mais en plus, nous qui recevons l'Esprit de Dieu, nous qui nous approchons de Dieu, qui faisons le choix de lui demander du secours, de nous approcher de lui, de nous repentir pour nos péchés, qui voulons vraiment devant Dieu saisir la main qu'il nous tend, alors l'Esprit de Dieu fait sa demeure en nous. Et c'est alors qu'il y a ce trésor à l'intérieur. Et au jour où notre vie sera redemandée, celui qui a ce trésor en lui ne mourra jamais. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quand finalement j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et cet Esprit-là qui est issu de Dieu lui-même, parce que c'est la nouvelle naissance, celle d'en haut, cet Esprit-là est éternel. Et le jour où j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi, alors je peux, en toute paix et joie, m'attendre à ne jamais être séparé de Dieu. Aujourd'hui, il est là dans mon cœur, mais le jour où la vie me sera redemandée, c'est auprès de lui que je serai. Donc le chrétien ne se retrouvera jamais séparé de Dieu. C'est la grande espérance. À l'inverse, celui qui n'a pas cet esprit de Dieu en lui, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, il se retrouve dans une situation où il restera simplement séparé de Dieu. Il sera dans les conséquences même de son propre choix, parce qu'il aura voulu de son vivant être séparé de Dieu, demeurer loin de lui, et ce choix-là va se répercuter dans l'éternité. Et pour l'éternité, il sera loin de Dieu. Seulement le problème, c'est que quand on est loin de Dieu, eh bien, ce sont des situations qui sont terribles, parce que être loin de Dieu, c'est le pire qu'un homme puisse connaître. C'est le pire qu'un homme puisse connaître. Et si le Seigneur lui-même a donné sa vie pour que cela n'arrive pas, c'est bien que c'est très grave de demeurer dans cette séparation avec Dieu. Sinon, il n'aurait pas donné sa vie. S'il a donné sa vie, c'est qu'il nous veut tous dans cette joie, cette paix auprès de Dieu, parce que c'est là qu'est le vrai bonheur pour l'éternité. Celui qui reste séparé loin de Dieu, il sera sous la coupe de son propre choix et il périra à cause de son choix. Il nous faut savoir ce que nous faisons de notre vie. Je le dis, j'insiste, parce que il y a un texte dans la parole qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » À chaque fois que j'entends un message et que je ne prends pas position, je m'endurcis. Et alors que je pense être libre au dernier moment d'accepter, Il se pourrait bien que l'hameçon me vienne dans la bouche alors que je n'ai pas eu mon trésor. On ne sait pas quand l'hameçon va venir. On ne sait pas le jour où le Seigneur nous retirera. Et quand ce jour va venir, il nous faut être prêts. Il nous faut être prêts. Il nous faut avoir pris cette bonne décision. Et j'aimerais vous encourager peut-être à ceux qui n'ont pas pris cette décision à y réfléchir vraiment et à vous engager, à vous convertir, à vous placer devant Dieu. C'est quoi cette vie comparée à l'éternité? Qu'est-ce que 80 ans à l'échelle de l'éternité? C'est un grain de sable. On peut imaginer une belle petite pâquerette au pied d'un grand cèdre. Alors, vous vous mettez devant la pâquerette, vous voyez une belle fleur. Mais plus vous vous éloignez, et plus ce que vous voyez, c'est quoi? C'est le cèdre. Nous, on s'occupe de la pâquerette, alors que ce qu'il faut s'occuper, c'est du cèdre. On ne réalise pas que notre vie sur la terre, elle est courte. Et que non seulement elle est courte, mais on ne connaît même pas la fin. On ne sait pas quand viendra notre fin. Et il nous faut être prêts, vraiment, devant Dieu, de réfléchir. Est-ce que oui ou non, je suis réconcilié avec Dieu? Chacun doit être capable de répondre à cette question. Est-ce que je vais me préoccuper de ma petite vie sur cette terre? Ou est-ce que je me préoccupe de la grande vie qu'il y a derrière? Le Seigneur nous appelle à être intelligents, à être sages. Nous sommes éternels, que nous le voulions ou non, nous sommes éternels. Et tout le monde vivra éternellement. Seulement, il y en a qui vivront éternellement loin de Dieu, et il y en a d'autres qui vivront éternellement auprès de Dieu. Quel choix nous faisons quand on est loin de lui? C'est une situation où il y a la peur, où il y a les angoisses, où il y a les regrets, les remords. On a les simples exemples que nous trouvons dans les évangiles devraient nous convaincre de la réalité de ces choses. D'autant plus que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous les donne. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. J'aimerais juste qu'on puisse rester dans le silence et s'examiner chacun. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que je fais partie de ceux qui veulent profiter de la vie, qui ne s'inquiètent pas de leur vie après celle-ci, de cette terre? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui ont cette réflexion sage et intelligente que de se dire qu'il y a cette vie qui continue? La mort sur cette terre, ce n'est qu'une porte. Or, celui qui a déjà franchi la porte, qu'est le Seigneur Jésus, il a la vie déjà. Il est auprès de Dieu parce que, journellement, il est en communion avec Dieu, il peut être au bénéfice de cette relation avec Dieu qui est retrouvée. Et la mort terrestre ne le séparera pas de l'amour de Dieu. Et là encore, je cite une parole biblique. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes loin de Dieu? Est-ce que nous sommes auprès de Dieu? Est-ce que nous allons considérer que le Seigneur a fait le choix, par amour, de payer? Et est-ce que nous allons accepter, comme Pierre a accepté d'aller pêcher, et il a été au bénéfice de son obéissance? Ou est-ce que nous allons refuser et nous ne pourrons pas être au bénéfice de ce que le Seigneur voulait pour nous? Ce que Dieu a fait, il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait parce qu'il t'aime. Est-ce que tu vas obéir comme Pierre? Ou est-ce que tu vas rester, camper sur tes positions, à refuser celui qui t'appelle? Le Seigneur nous appelle à réfléchir, à veiller attentivement sur nos voies, pour que nous puissions rester proches de lui. Il nous tend la main, il nous veut auprès de lui, il nous aime, il a souffert tout ça. Ce n'était pas par plaisir. Son plaisir, c'était de nous savoir pour l'éternité auprès de lui. Et c'est pour cela qu'il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te rendre grâce. Oui, tu as fait le choix de payer pour nous. Tu n'étais pas obligé. Tu as quitté ton ciel de gloire pour venir parmi nous dans nos ténèbres. Tu t'es approché des hommes. Tu as marché parmi eux, bien qu'ils étaient pleins de péchés. Toi, tu étais pur, sans tache, et pourtant tu as été mis au milieu d'eux. Tu es descendu tellement bas que tu as été mis au nombre des malfaiteurs. Et en allant jusque la croix, tu as payé pour nous. Seigneur, je te prie pour que nous soyons comme Pierre, dans l'obéissance. Que nous puissions considérer ce que tu nous dis. Que nous puissions obéir à tes conseils. Pour que nous puissions être au bénéfice de cette simple obéissance. Comme Pierre a obéi, il a été au bénéfice de son obéissance. Et je te prie pour que personne cet après-midi ne reste à l'écart. Je te prie, Seigneur, pour que personne cet après-midi ne soit dans la résistance ou dans l'opposition à tes conseils. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'Esprit de Dieu qui travaille nos cœurs. Merci, Seigneur, pour cet exemple que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour chaque chrétien qui t'a choisi et qui a compris à quel point il était important de mettre les autres en premier. Merci, Seigneur, parce que tu nous as montré à quel point la liberté était importante, mais à quel point il était aussi important de veiller à ces choses par rapport à ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour cette si belle histoire qui nous donne tellement d'instructions. Te rendons grâce pour la richesse de ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Amen.